この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
Ça s'est passé la semaine dernière. J'ai poussé la porte. C'était la fin du cours. Cours de ramen et gyoza, voilà pour le contexte. Et ben c'est parti. On est parti à discuter. On a attendu la fin du cours, évidemment. Mais une fois que tout était posé, que les gens étaient partis, eh bien, c'était l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance. Yuki Ichikawa sur Muteki en interview. Yuki Ichikawa, Omotenashi Cuisine et d'autres choses également. On vient de sortir d'un de tes ateliers donc de préparation de ramen et de gyoza. Juste là comme ça, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es bien... Enfin, eux, ils se sont bien amusés a priori, mais est-ce que toi, tu t'es aussi bien amusé?
Bah, écoute, la recette comme ramen et gyoza, c'est ce qui est très populaire en ce moment, depuis un moment d'ailleurs. Et je suis ravie que tous les cours se remplissent bien. Je viens de Tokyo, en fait, où il y a beaucoup de restaurants ramen, il y en a qui sont très populaires, qui font la queue et tout ça. Et je suis très exigeante sur la qualité des nouilles. Et fraîche. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps pour préparer à ce cours et cette demande. Et je pense que les gens se régalent non seulement pour s'amuser à fabriquer des nouilles, mais les déguster tout de suite avec une soupe qui est bien préparée, accompagnement du gyoza. Je pense que les gens étaient plutôt contents, hein, à la dégustation.
Ça fait combien de temps que tu fais ça?
Alors, j'ai fêté mon 10 ans d'activité à Lyon l'année dernière. C'est comme ça que j'ai commencé à l'ESL local, quand j'en suis... content. Et donc, pour te dire que je rentre dans la 12e année de cours de cuisine japonaise.
Tu as quoi comme parcours? Tu étais cuisinière au Japon, tu es arrivée dans quelles circonstances ici?
Comme j'ai toujours été un peu gourmande, la cuisine, c'est quelque chose que j'aimais faire. Mais quand il y a 12 ans, quand je suis arrivée à Lyon suite à mariage avec mon mari français qui ne voulait pas venir à Paris parce qu'à l'époque j'étais à Paris, quand je suis venue à Lyon, je ne connaissais personne et j'ai vu l'intérêt des gens pour la cuisine japonaise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours de cuisine à domicile pour commencer. Et puis voilà, depuis l'année dernière, j'ai mon local, moi, ma propre cuisine. Je suis contente.
Tu faisais quoi avant au Japon?
Au Japon, je travaille dans le marketing. J'avais déjà un parcours, j'avais déjà vécu 12 ans à Paris, et puis à cause du travail de mon père. Et en fait, après, quand j'ai fini mes études à l'université, j'étais embauchée par le groupe LVMH. Donc, comme quoi, j'ai mon carrière de luxe. Mais malheureusement, à Lyon, il n'y avait rien qui correspondait à mon compétence. Et du coup, je me suis lancée à donner des cours. Et c'est très satisfaisant. Vu quand les gens sont contents, qu'ils partent en me remerciant, alors que c'est moi qui remercie de venir participer, ça fait plaisir.
Il y a presque même un petit côté, philosophiquement parlant, c'est presque un côté luxe, puisque les gens se donnent le luxe de préparer eux-mêmes leur propre repas, en quelque sorte.
Oui, je pense que c'est un temps qu'on partage très riche, et de manger d'une bonne ambiance, c'est la luxe, quoi.
On a une particularité en France, mais c'est aussi le cas au Japon, c'est que justement la cuisine, c'est aussi d'une certaine façon un art. Est-ce qu'au Japon, tu te retrouvais avec le même rapport à la nourriture qu'en France?
Alors, ce qui est intéressant, je reçois pas mal de monde qui ont déjà voyagé au Japon et chaque fois, ils me donnent des compliments en disant qu'ils ont bien mangé au Japon, même que c'était pas des restaurants forcément gastronomiques, mais des restaurants comme ça avec un papa et maman, quoi, un petit restaurant. Et je pense que au Japon, on aime faire plaisir aux gens en cuisinant. On est assez, sérieux à la préparation. On triche pas dans les ingrédients. Et par conséquent, ça me fait plaisir de voir les gens qui se régaler. Parce que les Français, ils sont gourmands à la base. Ils ont trouvé la cuisine japonaise gourmand là-bas. Et c'est pour ça qu'ils reviennent à mon cours. Ça me donne aussi la pression. Et que je veux les rendre encore plus, satisfaite.
Alors, tu as travaillé effectivement dans le groupe LVMH, tu étais à Tokyo, tu as déjà une, tu avais déjà une attirance pour le marketing, notamment international. Est-ce que c'est ça qui fait que tu parles bien français dès le départ, en fait?
Si je parle français parce que j'ai vécu de 0 à 8 ans et demi grâce au travail de mon père quand on habitait à Paris. Ah, ouais. Et après, je suis retournée au Japon et j'ai fini mes études là-bas. Mais ce que je t'ai pas dit encore, c'est que oui, j'étais embauchée par le groupe LVMH, mais ensuite, j'ai enchaîné des carrières ailleurs. Et mon dernier carrière, c'était pour la marque Staub. Rien te cacher, j'ai adoré cet ustensile. Grâce à, voilà, il y avait tas d'histoires à raconter avec Monsieur Paul Bocuse et tout. Et donc, depuis à ce moment-là, je pense que j'étais pas mal attirée par la ville Lyon, la ville gastronomie, hein, où il y a l'Institut Paul Bocuse et tout ça. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai fait connaissance à pas mal de chefs. Des grands chefs, hein, des chefs français et japonais qui étaient à Tokyo. Et je recevais aussi des chefs français qui venaient au Japon. Et c'est là où j'ai commencé vraiment professionnellement de découvrir le monde culinaire.
Il y a j'imagine, alors on va y revenir, mais j'imagine qu'il doit y avoir une ambiance de travail peut-être différente ou une philosophie de travail différente entre les chefs français et japonais. Est-ce que tu as pu le voir, ça?
Il y a une histoire très intéressant à te raconter. En fait, j'ai rencontré cette chef pâtissière japonaise. Elle est très, elle est travailleuse, voilà, elle est bosseuse. Ouais. Voilà, elle est bosseuse. Et donc, un jour, elle me dit, j'ai travaillé dans les palaces à Paris, etc. Ce qui me gênait, tu sais quoi? Elle me dit, non, elle me dit, moi. Elle me dit qu'en France, le temps de travail est tellement limité. Alors, c'est vrai qu'au Japon, on s'en fout, hein, d'être payé pour l'extra et tout ça. Mais en France, vous avez tellement cette condition de travail hyper encadrée, hein, qu'il faut pas dépasser certains temps, et du coup il faut faire les choses un peu à l'arrache, et ça elle n'a pas aimé. Elle est pâtissière, donc elle voulait juste qu'au bout des choses qu'elle pourrait faire au Japon mais pas en France. Tandis que moi, quand j'étais au Japon, je travaillais jusque très tard. J'ai jamais peut-être rentré avant 20h, mais ce qui est pas bien non plus, parce que la vie privée et tout ça, ça gâche. Et des fois, moi, j'ai plutôt apprécié la façon qu'on travaille en France. Et quand on travaille, on travaille, quoi. On est hyper concentré, mais il faut terminer un certain temps pour aussi profiter de la vie privée avec la famille.
Que yo la...
juste après, elle allait enchaîner sur un autre atelier avec d'autres recettes. Alors, elle fait quoi? Elle fait aussi des okonomiyaki, elle fait aussi de la pâtisserie. Elle fait aussi des cours de cuisine pour enfants et ados aussi. Donc, pas que pour les familles, ou genre pour tout le monde à la fois. Cérémonie du thé aussi. Et elle a tout un réseau autour d'elle. Alors, elle fait de l'affûtage aussi, enfin, affûtage de couteau, on en a déjà parlé. Du kintsugi, mais c'est pas elle qui le fait. Pour D'accord. le coup, c'est une de ses amies qu'on a eu en voisin à la commune, justement. Si vous étiez à la commune et que vous nous avez vu pour le blind test, notamment, bah, on avait juste à côté de la scène un petit présentoir, voilà, une petite table où Violaine, d'ailleurs, présentait ses crafts. Et juste à côté, bien, il y avait des cours de kintsugi. Il y a aussi des cours de ikebana. Donc l'arrangement floral, c'est pas elle non plus, calligraphie également, mais tout ça, ça se fait dans son local. D'accord. Son local qui est donc situé au 216 avenue Félix Faure. Alors on parle de Omotenashi, tout ça est généralement regroupé sous une autre entreprise qui s'appelle Miyoku. Et donc c'est l'occasion, voilà, de créer beaucoup d'activités en réalité autour de la culture japonaise en général, j'allais dire de l'art culinaire, mais non, puisqu'il y a du kintsugi et de l'ikebana, c'est pas du tout à manger, mais globalement pas mal d'activités donc culturelles et j'allais dire manuelles en quelque sorte, de craft en quelque sorte autour du Japon. Tout ça à retrouver sur donc notamment omotenashicuisine.com puisque c'est le nom, c'est là où vous allez trouver notamment le calendrier de la semaine, des activités à faire donc dans ce local qui est donc situé à côté des Maisons Neuves entre Lyon et Villeurbanne. Et puis, dans ce local, on y a aussi rencontré les élèves. Les élèves de Yuki et petit entretien avec certains des élèves. Vous avez entendu parler de ces ateliers cuisine?
Cadeau de Noël, ouais. Cadeau d'anniversaire.
Surtout, puis son frère est devenu fan du Japon il n'y a pas si longtemps.
Et puis, il entraîne tout le monde là-dedans.
Ouais. C'est un cadeau aussi. Nous, c'est un cadeau. Moi, je suis fan de cuisine, il est fan de Naruto, et du coup, mon mari, il a cherché à trouver la bonne combinaison.
Est-ce que ça ressemble au ramen de chez Ichiraku?
Non, je ne sais pas.
Oui,
oui.
Oh, ok. Sauf que c'est toi, Ichiraku, du coup.
Oui.
Ok. L'une des premières questions que je posais, parce que c'est l'une des choses qui visuellement est peut-être la plus frappante, c'est est-ce que les œufs, c'est si compliqué que ça à faire? Parce qu'on est sur des œufs un peu parfaits, si j'ose dire, pas tout à fait mollets.
Nous, limite, c'était le plus simple, moi je trouvais, dans ce qui a été proposé, parce que finalement, mis à part la cuisson et peut-être de ne pas se craquer en les écloquant, il suffit juste de les mettre ensuite dans leur bain. Après, on ne l'a pas fait totalement, normalement il faudrait le faire pendant une nuit entière, mais c'était relativement simple. Hein.
Très très simple. En fait, il suffit de juste avoir le bon minuteur et de mettre les bonnes 7 minutes et après c'est parfait. Et l'eau glacée. Voilà, 2-3 petits trucs qu'elle nous a appris.
Je pense que l'eau glacée, c'est important. L'eau glacée, comme ça stoppe la cuisson.
Donc vous avez bien retenu le cours, ça c'est
voilà,
cool.
C'est bon.
Est-ce que vous avez pris des notes pendant ce cours?
Oui.
Oui.
Vous avez gardé, voilà, notamment pour le bouillon aussi, a priori, si je comprends bien, il y a toute une préparation qui est assez, à la fois particulière, il y a de la précision, mais il y a aussi du jugé, si je comprends bien.
Oui, aussi. Enfin, je trouvais plus compliqué les pâtes que le bouillon, parce que le bouillon, en soi, c'est toi, quoi.
C'est ce que t'aimes, tu mets dedans ce que tu veux, après...
Alors que, je sais pas, les pâtes, c'est un petit peu plus...
C'est
délicat.
Je
pensais pas.
Ok.
Puis ce qui était intéressant, c'est qu'elle a mis vraiment les restes de ce qu'on a coupé. On a mis du poireau, on a utilisé tout le poireau, quoi. Sauf la racine, mais tout. Et le verre est allé dans le bouillon, on a utilisé du gingembre, la peau est allée dans le bouillon. L'ail, on a pressé ce qui n'a pas été dans le pressage, c'était dans le bouillon. Donc c'est un côté très... Anti-gaspi, c'est ça.
J'allais y venir justement, c'est pareil pour la viande, puisqu'une partie de la farce des gyoza, puisque vous avez fait des gyoza aussi en parallèle, a servi donc pour les ramen.
Oui, finalement, c'est ça fait un peu un topping pour les ramen, où on l'a mis directement, directement comme ça. Enfin, on l'avait bien sûr... fait revenir.
C'est plus ou moins. Plus ou moins.
Oui, c'est vrai qu'en comparaison, il y avait vraiment un gros travail d'émincage pour les gyoza qui fait que c'est assez satisfaisant de regarder la farce. Gyoza.
Et pas que la farce, les pâtes aussi étaient faites à la main, bref. Et vous avez entendu derrière tous les bruits de, des bols qui se rangent.
C'est ça, exactement. Voilà, t'entendais la cuisine, quoi.
Mais non, mais on était vraiment chez...
La cuisine, quoi.
On a une vibe d'être chez quelqu'un, et c'est très amusant.
T'étais dans la cuisine.
On était dans la cuisine.
Exactement, quoi.
Exactement. Et puis, les ramen de chez Ichiraku, il y avait deux petits ados, donc forcément, ils étaient fans. Enfin, là, vous l'entendez pas, puisque on avait aussi, il y a d'autres questions que j'avais posées, notamment, qu'est-ce qui vous a attiré? Forcément, les gamins étaient attirés par les animés, et Naruto, évidemment, en particulier. Pour les ramen, surtout. Voilà, oui. On vous a teasé également le fait qu'il n'y avait pas que des cours de cuisine et qu'il y avait aussi donc de la lingerie. Mais vous allez me dire, mais quel rapport?
Ouais, c'est quoi le rapport?
Eh bien, Yuki, en fait, elle va nous trouver le rapport. Dans l'entretien, pareil, troisième et dernière partie, qui est là aussi un peu assez courte, mais en fait, écoutez bien ce qu'elle va nous dire. Et elle va trouver en fait une logique, en tout cas, à ces deux activités. Et je la trouve très mignonne, là, pour le coup, cette logique-là. Du coup, cette marque, elle s'appelle Kyukone. Et alors, on va juste le dire, Kyukone, c'est Kyun. Enfin, à la base, Kyut ou Kyun, enfin, c'est plutôt Kyun, en fait. C'est Mimi, c'est une petite onomatopée Mimi japonaise. Et Kone, c'est Hikone, une marque de lingerie indépendante de Hikone. Mais j'en ai déjà trop dit, on va présenter cette deuxième activité donc, que mène de front également donc, Yuki, qui est notre interview cette semaine.
Hikone, donc c'est une marque japonaise, style kawaii, donc c'est très original. J'ai commencé en 2019, c'était juste avant la Covid. Et pendant le Covid, effectivement, mon cours de cuisine, ça commençait à être devenir un peu n'importe quoi, j'avais du mal à organiser, je savais pas où aller. Donc du coup, j'ai pris cette responsabilité de importer et distribuer cette marque en France, parce que je connais les personnes. Et c'est avec Kyukone que je participais à tous les salons japonais, comme le Japan Tat, Japan Expo.
Ok, c'est une marque indépendante qui vient de Hikone, alors si je comprends bien.
C'est ça, c'est très bien ça, c'est la ville de Hikone. Et on a associé les deux mots, cute et Hikone, et c'est devenu Kyukone. C'est de la lingerie qui est assez originale. Mais quand on a participé à un salon de lingerie à Paris, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt puisque c'était très original.
C'était aussi très lié donc, à la pop culture japonaise, les animés, Gothic Lolita, etc. etc.
Alors, c'est ça, l'univers très très mignon. On est plutôt dans les vêtements. Bon, hein, donc c'est plutôt le fashion. Et je n'arrivais pas en fait à associer ces deux activités, ce complément différent. Et depuis que j'ai mon local, en fait, j'ai associé les deux activités en organisant des kawaii tea parties.
Oh, ok, d'accord. Donc avec de la pâtisserie japonaise alors.
C'est ça, avec la pâtisserie japonaise. C'est les gens qui s'habillent mignonne Lolita, ils participent à la kawaii tea party. Et en fait, on s'organise une sorte de salon de vente des produits aussi à ce moment-là. Et c'est très sympa.
Je te remercie beaucoup.
Avec plaisir, merci beaucoup Damien.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canyon 102.2 FM.